Bonjour à tous, bienvenue dans notre étude hebdomadaire sur la Tefila. On a commencé notre étude la semaine dernière c'est parti, deuxième cours sur la Tefila. Donc les débuts de la Tefila, cette fois, voilà. Hop-pidou. La semaine dernière, on a lancé notre étude donc sur la Tefila et on a ouvert avec des questions qu'on a laissées en suspens. Le corps du cours de la semaine dernière, c'était de savoir est-ce qu'on a le droit de prier. On a expliqué quelle est la particularité, c'est que normalement, pour prier, il faut être prophète. Et tout notre cours de la dernière fois, c'était d'expliquer que bien que nous ne soyons pas prophètes, eh bien, nous utilisons les mots des prophètes et c'est ce qui nous permet de prier. Mais nous avons tout de même lancé deux grandes questions qu'on a laissées en suspens. Deux grandes questions qui semblent être des questions épineuses puisqu'elles font de la tefila un moment très, très, très bizarre. On a dit, la première question, c'était la question de Kol Nidre. On a lancé cela en disant qu'il n'y a pas de tfila comme celle de Kol Nidre, the tfila parmi les tfilotes, et pourtant, eh bien, quand on regarde dans le sidour de Rav Amram Gaon, il y a près de 1000 ans, il nous dit qu'à propos de Kol Nidre, ze minag shtut ve'asur la'asot ken. Minag shtut ve'asur la'asot ken. C'est-à-dire un minag débile, et on n'a pas le droit de le faire. On a expliqué la semaine dernière quelle était la problématique de ce minag. Ben effectivement, ça veut dire quoi de permettre les vœux alors qu'on n'a même pas encore fait les vœux? Ça ne donne plus aucun intérêt à notre parole. Bemet minag shtut va sur la sotken. Et pourtant, on a dit, dans toutes les communautés d'Israël, Kol Nidre, c'est devenu la tfila la plus importante. Et même dans le sidour de Rav Amram Gaon, la ligne après, qu'il ait dit que c'est interdit de dire ça parce que c'est débile, il y a tout le texte de Kol Nidre, comme on dit dans nos synagogues. Comment c'est possible? Et on a amené un deuxième paradoxe, c'est le paradoxe Moshe. On a posé une question, à savoir, qui a décrété qu'il fallait prier 3 fois par jour, comme nous le faisons? Et même si on s'est habitué à dire que c'était que la tefila est venue à la place des korbanot, on a expliqué la semaine dernière que qu'est-ce que ça voulait dire à la place des korbanot? Eh bien, ça ne veut pas dire que ça remplace les korbanot, bien sûr que non, puisqu'on voit dans le Tanakh qu'à l'époque des korbanot, on prie aussi. Mais ça veut simplement dire qu'on a donné une ambiance korbanique à la tefila. Si à l'époque, on priait quand on ressentait le besoin et qu'il n'y avait pas de moment bien précis, eh bien, là maintenant, notre tefila, elle va être à l'époque de ce qui était les korbanot, à Shacharit, Mincha, Ervit. La question reste posée. Pourquoi 3 fois? Pourquoi 3 fois par jour? Et là-dessus, on avait expliqué, on avait amené le Midrash Tanchuma sur la paracha de Kitavo qui nous dit que Moshe a vu Beruach HaKodesh que viendra un temps où les Bikurim cesseraient au Bet HaMikdash. Ça ne le dérange pas, le Kohen Gadol n'est plus là, ça ne le dérange pas, les Kohanim ne sont plus là, ça ne le dérange pas, il n'y a plus de Korbanot, ça ne le dérange pas, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Bikurim. On n'amène plus les fruits, les prémices, les premiers fruits qu'on a dans notre récolte au Beth Amikdash. Oh bon, bah alors on fait 3 fois par jour. 3 tfilotes par jour. Quel rapport? Mes amis, venez, on va commencer à essayer de donner les réponses à ces deux grandes questions. Parce que si on a compris qu'on pouvait prier parce qu'on utilisait les mots des prophètes, on aimerait comprendre quelle est la raison profonde de cette prière. Alors, si on va essayer de rentrer dans le vif du sujet directement... Et j'aimerais qu'on comprenne bien les choses. Moshe Rabbeinu est peut-être le premier qui a fait Kol Nidre. Venons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je vous ramène à une histoire bien connue. Moshe Rabbeinu veut rentrer en Eretz Israël. Il veut mamash rentrer. Il sait que Yehoshua va être celui qui va lui succéder, qui va faire rentrer le peuple juif, qui va devenir le nouveau Manigue. Mais Moshe veut rentrer. Et donc va être Anan el Hashem, va être Aïl est mort. Adonai Elohim, ata achilot ala arot et avdecha et godlecha et yadecha chazaka, asher miel bashamayim vaharetz, asher yasek maasecha gvotecha, hebrana veret, haaretz atova, asher beever yarden, har atov azev alevanon. Moshe prie de tout son cœur. Va être Hanan. Keminyan va être Hanan. Plus de 500 tefilotes. Moshe va faire pourquoi? Pour pouvoir rentrer en Israël. Comme vous le savez, Dieu n'accède pas à sa requête. Et le Midrash va nous dire tout simplement que Dieu lui a dit « Tais-toi ». Et le Midrash nous donne cette discussion invraisemblable entre Ribono Shel Olam et Moshe. Dieu lui dit, arrête, Rav Lach, Al Tosef Daber Elai Od Badavar Azé. Arrête de me parler de ça. Pourquoi pas? Vas-y, s'il te plaît. Alors, que les choses soient bien claires. Ne me dites pas que Moshe n'est pas rentré en Israël à cause du coup du bâton là sur le rocher. Je n'accepterai pas ce genre de réponse. Parce que, un, c'est pas du tout, mais alors pas du tout évident que Moshe a fauté là-bas. Mais ça, on va pas en parler maintenant. Et deux, même si on dit qu'il a fauté, Baruch que Moshe, il a fait tchouva. Mazeva et Tranan, il a fait tchouva, donc c'est bon, yala, salamat. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, je peux pas te faire rentrer en Israël. J'aurais tellement voulu, mais je peux pas. Lama, tu peux pas. Il dit, nadarti neder. Nadarti neder que tu rentres pas. J'ai fait un vœu que tu rentrerais pas. Moshe, entendant ça, il dit à Dieu, ah bon? C'est que ça? Bah, tout va bien alors. Bah oui, nadarta neder. Bah, c'est pas grave, dans ta Torah, tu nous as appris les lois de Atarat Nedarim. Tatir. Tatir neder. Annule mon vœu. À ce moment-là, le Midrash, il dit que Dieu, il a regardé Moshe droit dans les yeux et il lui a dit, ça marche pas. Comment on fait pour aller faire Atarat Nedarim? On va chez le Rav. C'est ce que le Midrash, il dit, Rav lach. Lecha yeshrav. Si toi tu as un problème, tu as fait un vœu et tu veux l'attirer, comment tu fais? Tu viens chez moi, Dieu. Mais moi, Dieu, en li rav. Lach, lecha yeshrav. Rav lach. Mais moi, en rav. En li rav. Donc je ne peux pas aller chez un rav pour l'attirer et nidri. Moshe a accepté. Moshe a accepté et donc finalement il accepte son xardine et il reste dehors. Il ne rentre pas en Israël. C'est très étonnant parce qu'en fait, Moshe était dans une même situation des années plus tôt. Pour être exact, près de 39 ans plus tôt. Mais là, il a su quoi faire. Et là, ça a marché. Ça nous ramène à une autre histoire, à l'histoire du veau d'or. Et au moment du veau d'or, Am Israël a fait n'importe quoi devant le veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais tous les tuer. Et à ce moment-là, Moshe dit à Dieu, mais ma pitom, dit Ken, je vais tous les tuer. J'aurais dit de ne pas faire l'idolâtrie. Lota, sel chapesel vechol temuna, tu n'as pas le droit de faire des images. Et regarde ce qu'ils ont fait. Midrash Tanchuma, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Moshe, il avait les louchot abrit. Il avait les louchot dans les mains. Et Dieu lui dit, aïe, je vais tous les tuer. Il dit, ah, kara. Il dit, mais c'est interdit de faire la vodazara. Il dit, ah bon, c'est Moshe, il répond à Dieu, il dit, c'est interdit, où c'est marqué? Il dit, comment ça vous c'est marqué? C'est marqué dans les louchotes que tu tiens dans la main. Lota, sel, chapé, sel, vechol, temuna. Tu ne feras pas d'image. Et là, Moshe, il casse les louchotes et il dit, ah bon, et c'est marqué où maintenant? Nounou. À ce moment-là, lorsque Moshe Rabbeinu entend de la part de Dieu qu'il veut détruire le peuple juif, le texte de la Torah nous dit, je vous cite dans le livre de Shemot, au Perek Lamed Bet, Veichal Moshe et Pene Hashem Elohav. Vayechal Moshe. Mais c'est Vayechal Moshe et Pene Hashem Elohav. Je ne vous le traduis pas parce que c'est intraduisible. Je vais vous citer le Shmot Rabba. Le Midrash de Shmot Rabba nous dit Vayechal Moshe, qu'à ce moment-là, Moshe a mis son talit, il s'est assis, Ve'etir Nidro Shel Yotzro. Il a annulé le vœu de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais tous les tuer. Pourquoi j'ai fait un vœu que celui qui fait la Avodah Zara, mot yumat. Mon cher Rabbeinu, il vient devant Dieu et lui dit droit dans les yeux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il lui dit, Mechenina misifrecha asher katavta. Tu sais quoi? Efface-moi ton livre. C'est Lohani. C'est pas moi, Moshe, qui parle. Moi, là, maintenant, je viens au nom de Klal Israël et je te dis une chose, tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, tu sais quoi, Dieu? Au nom du peuple juif, je me permets de venir. Si c'était que à mon nom, je comprends que je n'ai pas la force. C'est pour ça que dans Vaetranan, le peuple juif, lui, il va avancer en Israël. Donc, ma demande, elle est purement personnelle. Et je comprends, tu m'as dit non, Yefchar la attire. Mais là, il s'agit du Klal Israël. ce n'est pas moi, Moshe, qui parle, c'est tout le peuple juif au travers moi qui parle. Nous dit le Midrash, il a mis son talit sur la tête et il a dit à Dieu, t'entends bien ? Kol nidrei vesarei vecharomei vekinumei vekinusei vekinuyei. Il a dit tout le kol nidrei. Moshe a dit kol nidrei pour l'attir nidro shel akadosh baruch hu. Quand on fait kol nidrei, on pense que c'est l'annulation des vœux. Mais nous dire Avamram Gaon, si tu penses que c'est l'annulation de tes vœux que tu as fait cette année, c'est stupide. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis tu peux pas annuler les vœux de la tige du futur. Mais mon cher Rabbi nous explique en fait non. Kol Nidre, c'est le moment où on vient en tant que Klal Israël. Pour qui il n'y a pas de passé, présent, futur? Pour Akadosh Baruch Hu. Donc Miyom Kippourim Zayot Kippourim Abal et nous les Tova, le seul de qui on peut dire ça, c'est de Dieu. En d'autres termes, on vient et on dit Ribono Shel Olam. T'avais prévu de faire quelque chose de mal au peuple juif cette année pour ce qu'il a fait? Kol nidre vesare vecharome vekoname vekinuse vekinuye kulam lo shirim velo kayamim. Kol nidre, c'est devenu la tfila la plus importante du peuple juif, parce que ce n'est absolument pas le moment où on vient annuler nos vœux, c'est le moment où on vient annuler ses vœux. Et pourquoi on peut se permettre de faire ça? Parce que ce n'est pas le rabbin, le chazan de la communauté qui le fait. C'est Klal Israël. C'est pour ça que juste avant de dire Kol Nidroé, on dira Al dat amokom ve al dat akal bishiva shel malo bishiva shel mato anu matirim leispolel im avoryonim. On dit ça על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה בישיבה של מטה אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit avoir tout le monde. On peut pas commencer comme une dresse, il y a pas tout le monde, y compris le mec qui vient d'arriver en voiture et qui va partir en voiture. On a besoin de lui, parce que pour pouvoir dire kol nidre, il faut être kulam beyachad, y compris les avarianim, y compris les fauteurs. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Pour prier, il faut être prophète, on a dit la semaine dernière. On a dit on n'est pas prophète, mais on utilise les mots des prophètes à l'oracle Besaider. Mais il faut une autre qualité pour prier. Il ne faut pas être tout seul. Il faut être Klal Israël. Sinon, ça ne sert à rien que tu pries. Je ne peux venir devant Dieu et lui demander de changer les décrets, de me donner quelque chose, uniquement parce que je m'inscris dans une collectivité qui s'appelle le peuple juif. Il n'y a pas de plus grand moment dans l'année où Am Israël est un que à Yom Kippour. Et c'est la raison pour laquelle à Yom Kippourim, eh bien, on s'est habitué à dire Kol Nidre pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on est Klal Israël. C'est la raison pour laquelle c'est devenu la tefila la plus importante. Une fois qu'on a lancé l'année, si tu veux, avec Kol Nidre, alors on peut prier tous les jours, trois fois par jour. Moshe nous a dit, il n'y aura plus de Bikurim, trois fois par jour. Lama. Oh oh. Oh oh. Vous savez, toutes les mitzvot, elles ont un moment bien déterminé. Les mitzvot ont un temps que quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est plus le moment, c'est plus le moment. Il y aura bientôt une mitzvah de manger de la matzah. Quand ça sera le moment, ce sera le moment. Si maintenant je mange de la matzah et que je dis Baruch atah Hashem Elokeinu Melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al achilat matzah, c'est bracha levatana. Sukkot, je prends le lulav. Si je prends le lulav après Sukkot, c'est plus le moment. Chaque mitzvah a son timing. Il en est une qui a le timing le plus long de toutes les mitzvot. Une mitzvah qui s'allonge dans le temps. Que j'ai 7 mois pour la faire. Mitzvah tabikurim. Mitzvah tabikurim, elle commence à Shavuot et elle se termine jusqu'à... Ouais, ouais, Hanouka. Bikurim, c'est les 5 fruits. Parmi les 7, on met le blé et l'orge de côté. C'est la grenade, la figue, le raisin, la datte et l'olive. Ces 5 fruits-là d'Eretz Israël, je dois les amener lorsqu'ils sont mûrs. Je dois amener les premiers de ces fruits-là au Beth Amikdash. Alors pour le raisin, je peux les amener à Sukkot, ça sera mûr, c'est bon. Je peux amener mes dattes, je peux amener ma grenade, je peux amener ma figue. Tout ça, ça mûrit soit en juin, juillet, août, soit septembre. Donc de toute façon, à Sukkot, je peux amener tout. Mais il me manque le dernier, les olives. les olives commencent à être mûres qu'en novembre. Et donc, je pourrais les amener jusqu'à Hanouka. En d'autres termes, mitzvot habikurim, c'est depuis Shavuot jusqu'à Hanouka. Incroyable. Depuis Shavuot jusqu'à Hanouka, j'emmène mes bikurim. Mais ça veut dire que c'est la majorité de l'année. Roubo shel hashana kekulo. C'est comme si c'était toute l'année que tu amènes les bikurim. Et puis attention, amener les bikurim, ce n'est pas stable. Amener les bikurim, ce n'est pas qu'il y a un moment durant ces 7 mois. C'est n'importe quand tu veux. Alors oui, la Mishnah nous dit qu'il y a plein de gens qui s'arrangeaient des moments précis pour monter ensemble, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aller quand tu veux. Et vous savez quel est le grand chidouche des bikurim? Le grand chidouche des bikurim, c'est que quand tu arrives avec tes bikurim au Beth Amikdash, tu dois passer d'abord par Jérusalem. Tu montes par Jérusalem. Et là, la halakha est très claire. Si je suis, moi, je suis au travail à Jérusalem, j'ai mon échoppe et je travaille. Je suis en train de, je sais pas moi, je suis cordonnier, je refais des chaussures. Et que le Kohen Gadol passe devant ma boutique, j'ai pas le droit de m'arrêter de travailler pour le saluer ou quoi que ce soit. Le grand rabbin d'Israël, le Nassi à Sanhedrin passe, j'ai pas le droit de m'arrêter. Aval un mec lambda qu'on connaît pas, qui vient avec un panier avec des dattes, il me dit à Mishnah, Kol ba'alei ha'umanuyot shebirushalayim hayu omdim lifneihem. Tous les mecs qui avaient des magasins à Jérusalem se levaient devant eux. C'est un mec avec des fruits. Tout le monde se levait devant lui. Lama. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans cette mitzvah d'Abikourim? La particularité de mitzvah d'Abikourim, Rabotai, elle est fondamentale. La particularité, elle vient me dire, mais attends, t'as pas compris? Les bikurim, ça vient me dire que la kedusha, elle est où? Elle est partout. Parce que c'est dans quel champ qu'on a les bikurim? Dans les champs de tout le monde. Et la kedusha, elle est non seulement partout, mais elle est tout le temps. Puisque les bikurim, c'est presque toute l'année. Et je vais vous dire mieux que ça. Le mot bikurim ne nous ferait-il pas penser au mot bechor? Aujourd'hui, il y a des kohanim. Les Kohanim qui font le lien entre Amisraël et Dieu. Mais je vous rappelle qu'à l'origine, ceux qui devaient être les Kohanim, c'était les Bechorot. Il y a une grande différence entre les Kohanim et les Bechorot. La différence, c'est quoi? C'est que les Kohanim, on les trouve là où on trouve les Kohanim. Dans les villes de Kohanim et tout ça. Les Bechorot, où est-ce qu'ils habitent? Les premiers-nés. Ils habitent partout, dans chaque maison. En d'autres termes, le lien avec Akadosh Baruch Hu, il ne se faisait pas à un endroit déterminé, mais il se faisait partout. C'est quoi la mitzvah des bikurim? La mitzvah des bikurim, c'est la prise de conscience du lien avec Akadosh Baruch Hu qui est perpétuel, tout le temps et partout. C'est ça les bikurim. De dire que je suis en lien avec Dieu sans arrêt. Cette nochechut, cette présence divine, elle est présente chez moi partout et tout le temps. Mon cher Rabbeinu, il a vu, Beruach HaKodesh, que viendra un temps, il n'y aura plus les bikurim. Il faut que je leur trouve un moyen, ces juifs, d'être en lien avec Dieu tout le temps et partout. Il y a là 3 tefillot par jour. 3 tefillot par jour. Et évidemment, 3. Pourquoi 3? Pourquoi pas une par jour? Suffit. Non! Parce que l'homme, il a 3 dimensions différentes dans la journée. Il n'est pas le même le matin, il n'est pas le même le soir, il n'est pas le même pendant la nuit. Mais évidemment, le matin, Zeshacharit, c'est-à-dire, comme nous dit la Mishnah Gemara Masechet Brachot, c'est Abraham qui a mis en place Shacharit, pas qu'il a mis en place la Tfila, mais qu'il a appris qu'on peut se lier à Dieu par la dimension qui s'appelle Shacharit, c'est-à-dire le matin. Et oui, le matin, c'est quoi, Zamidat HaChesed? T'as fait quelque chose pour recevoir la vie ce matin? Rien du tout. Dieu, il t'a donné la vie, Bechesed. En d'autres termes, quand tu viens te présenter devant Dieu le matin, tu le vois comme étant Kulo Midat HaChesed. Le soir, je dis le soir, je parle la fin de la journée, Mincha, Ben Arbaim, juste avant le coucher du soleil, tu viens rendre des comptes sur la vie que tu as reçue le matin en cadeau. Tu connais Dieu par Midat Adin. La nuit, tu es censé dormir. C'est le moment de la Eader, le moment de l'annihilation a priori de l'homme. Et pourtant l'homme se lève et dit, même là-dedans, même dans la nuit, je veux être lié à Dieu. Et je fais Arvit. En d'autres termes, les tefillot 3 fois par jour que Moshe a mis en place, c'est pour nous permettre, jusqu'à ce qu'on reconstruise le Beth Amikdash et qu'on ramène les bikurim, d'avoir un contact permanent avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour que ce contact puisse être réel, eh bien, je dois l'intégrer dans un contact général qui s'appelle le peuple juif. Ainsi, Kol Nidre est devenue la tefila la plus importante et nous prions trois fois par jour. Alors, on est bon ? On peut y aller ? On peut y aller, on peut prier. Yala, chez Yala Briyout. Il y a juste une question à laquelle on n'a pas répondu. Une question fondamentale. Pourquoi ça marcherait ? Et pourquoi ça marcherait, ma tefila ? J'ai plein de choses à demander à Dieu. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, s'il ne m'a pas donné ma parnassa, peut-être qu'il pense que c'est mieux comme ça. Dieu, s'il m'a fait tomber malade, peut-être qu'il pense que c'est mieux comme ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, je demande ? Moi, je me prends pour plus savant que Dieu ? Je sais mieux que lui ce qu'il faut ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La tefila, en fait, c'est d'une chouspa fantastique. La tefila, c'est une chouspa fantastique. Parce que ce serait un moment où je dis que je sais mieux que Dieu ce qu'il faut. Pas automérite. Dans une période où on prie tous les jours pour la réfoua de toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus, de ce corona. Je suis en train de vous dire quoi ? Peut-être que Dieu, il sait ce qu'il fait ? Et pourtant, on va devoir prier. Lama. Pourquoi est-ce qu'on pense que ça va marcher ? C'est pas qu'on se prend pour mieux que Dieu. Dieu, il a ses comptes, il a ses comptes. Mais je sais une chose. C'est que Dieu, il attend que moi, je le dévoile dans ce monde. Et moi, je sais que si je vais pas bien, je ne peux pas le dévoiler. Toutes les lois de la tefila, comment on prie, on l'a appris d'une femme extraordinaire. Toutes les lois de la tefila, on les a appris de Hana. Pourquoi est-ce que Hana est l'instigatrice de toutes les lois de la tefila, y compris à voix basse et tout ça, machin ? Le secret de la tefila, c'est chez Hana. Hana, elle vit un drame dans sa vie puisque son mari... Elle l'aime, il l'aime, mais ils n'ont pas d'enfants. Il a une deuxième femme qui s'appelle Penina avec qui il a 10 enfants. Et Hana, elle veut tellement un enfant. Hana, elle vit tellement profondément le fait d'être une mère d'Israël qu'elle n'arrive pas à survivre au fait qu'elle n'en a pas. C'est Pessah, toute la famille est à Shiloh, Mishkan. Hana va prier. Eli à Cohen, Yoshev Bemezuzat et Chalashem. À l'entrée du Mishkan. Et Hana est venue prier Veimarat Nafesh. Elle en a gros, tellement gros sur le cœur. Elle se met à prier à voix basse. Il n'y a que ses lèvres qui bougent. Eli ne comprend pas. C'est pas fait sur son pectoral, sur son Roshen. Et il voit les lettres s'allumer. Et il voit la laine Shin, Kaf, Rei, Shei. Et il lit Shikora. Elle est ivre. Alors il lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Et à ce moment-là, Hana lui dit, ma pitom, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Aval animarat nafesh. Je suis terriblement triste. Dit le Talmud qu'il a mal lu, Eli, qu'il aurait dû lire non pas Shikora, mais les lettres dans l'autre sens. Keshera. Keshera. Kasher. Elle est Kshera. On dira le Maharal de Prague, en fait, il n'aurait pas dû lire Kshera, il aurait dû lire Kessara. Elle est comme Sarah Imenu, qui a tellement, tellement voulu cet enfant. Et dans sa tefila, Hana nous donne le secret de la tefila. Vatakom Hana, achare achla beshilo, vachare shato, veili akohen yoshev al kise, al mezuzat echal Hashem, veimarat nafesh, vatitpalel al Hashem ubachot ifke. Et il est le secret. Vatit palel al Hashem. Normalement, on dit lit palel el Hashem. C'est quoi lit palel el Hashem ? Ça veut dire prier Dieu. Mais c'est lit palel al Hashem. Ça veut dire prier pour Dieu. Comment ça ? Pour Dieu. Elle veut un fils pour elle. Ça, c'est pas Hana. Hana, elle comprend que toute sa demande, elle n'est pas pour elle. C'est pour lui. On dirait, bon, non, j'ai l'olam, tu comprends pas ? Si moi, j'ai pas de fils, ça veut dire qu'il n'y a pas de Shmuel. Et s'il n'y a pas de Shmuel à Navi, ben, il n'y aura pas de Shaoul qui sera roi d'Israël. Il n'y aura pas de Shaoul, il n'y aura pas non plus David qui va vaincre Goliath. Il n'y aura pas David qui va vaincre Goliath, il n'y aura pas non plus David, roi d'Israël. Il n'y aura pas David, il n'y aura pas Shlomo. Il n'y aura pas Shlomo à Meler, il n'y aura pas de Beth Amikdash. Pas de Beth Amikdash, pas de palais, pas de palais. En d'autres termes, Hana, elle dit, c'est pas pour moi que tu vas me donner un fils, c'est pour toi. Ribbono Shel Olam, c'est pour toi que j'ai besoin d'un fils. Oh oui, je vais kiffer mon fils, mais c'est pour toi. Mais la reine à Tfila est amitite, à condition que quand on demande quelque chose qui nous manque, on comprenne que ce qui nous manque, c'est de pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu grâce à cela. Prenons un exemple, pas du tout tiré par les cheveux. Je ne sais pas si ça a coupé ou pas, je répète ce que je disais. Hana nous apprend que si on veut que notre demande soit valable, eh bien, il faut tout simplement que notre demande soit intégrée dans quelque chose de plus grand, qui dévoile la volonté de dévoiler Dieu. Je vais vous donner un exemple de quelque chose de pas du tout tiré par les cheveux. Disons que, voilà, il y a quelqu'un, il devait venir à un cours. Et le rabbin, juste avant de venir donner cours, il a eu mal au ventre et il n'est pas venu donner cours. Et là, à ce moment-là, eh bien, une des personnes qui avait fait une heure de route pour venir au cours, elle dit, encore les rabbins, ils respectent pas les gens, et ils viennent pas donner cours, et c'est n'importe quoi. Et machin, il est ultra vénère. Et il rentre à la maison ultra énervé, et quand il rentre à la maison, sa femme, elle le voit, elle dit, mais t'es énervé comme ça, 3 heures t'es parti de la maison, pourquoi être énervé comme ça? Et là, lui, il était super énervé à cause du rabbin qui n'était pas venu donner cours. Il lui a mis une baffe. Oh! Et là, la femme, elle a dit, comment? Une baffe? Non, mais ça va pas! Elle appelle la police. Et là, le divorce, direct. Et puis, comme il a été violent, il a en plus non seulement le divorce, mais il a en plus une obligation de s'éloigner de la maison. Et donc maintenant, il est obligé de prendre un appartement loin de la ville. Le problème, c'est qu'il n'a pas ni son... Il doit payer son loyer, les pensions alimentaires, il ne sait plus quoi en faire. En plus, il habite loin. Donc, il arrive en retard au travail et il se fait virer. Et donc, il n'a plus de travail. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a besoin d'argent. Donc, il tombe dans la drogue. Il tombe dans la drogue et puis il commence à être très bon là-dedans. Et il ouvre un cartel de drogue et un cartel qui va influencer toute la région. À tel point que l'État d'Israël n'arrive plus à gérer, tellement il y a la recrudescence de la violence dans le pays. Et à ce moment-là, c'est justement parce qu'il y a une crise interne que les ennemis d'Israël, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, décident de nous attaquer. Et à ce moment-là, l'Iran, elle arrive. Et il attaque aussi. Et à ce moment-là, Bibi, il ne sait plus quoi faire. Il appelle Donald. Il dit, Donald, aide-moi. À ce moment-là, Donald, il est super énervé. Il appuie sur le bouton rouge. À ce moment-là, Vladimir, il a dit, comment? Il a appuyé sur le bouton rouge, moi aussi. Et il appuie. Et ce Jinping, eh ben, il appuie aussi. Et boum, la guerre nucléaire. Et 7 milliards de morts en une semaine. Tout ça, parce que le Rav, il n'est pas venu donner cours parce qu'il avait mal au ventre. Donc au moment où il a mal au ventre, le Rav, il dit, il fait cette fila de mincha et il dit, Ribbono Shel Olam, Shlach refoua shelema lechol cholei amecha, j'ai mal au ventre. S'il te plaît, donne-moi la refoua pour que je puisse aller donner cours. C'est pas pour moi. C'est parce que j'ai envie de l'agdil et chimcha. Bon, c'est un exemple qui était un tout petit peu tiré par les cheveux. Mais même pas. Bien sûr que Dieu, il sait mieux que moi. Dans les mondes supérieurs, il sait mieux que moi. Si un tel, il est malade, c'est que, ok. Mais moi, c'est à moi que revient l'honneur de dévoiler Dieu dans le monde. Et si moi, je suis triste parce que mon proche est malade, si moi, je suis triste et fatigué et faible parce que je suis malade, je ne peux pas te dévoiler. Donc, Ribbono Shel Olam, donne-moi. Mais c'est pas pour moi, c'est pour que moi je puisse te donner. Voilà le secret de la tfila. Qu'on comprend qu'on est tous ensemble. Qu'on prie dans cette ambiance qui s'appelle Klal Israël. Que d'un autre côté, on a appris tout cela. Que je ne suis pas seulement Klal Israël, mais je prie pour Dieu. Et je l'ai appris de Hana. Alors à ce moment-là, je peux mettre en place ce contact permanent avec Akadosh Baruch Hu au travers des bikurim. Une fois qu'on a dit cela, eh bien alors c'est bon, on peut y aller, on peut prier. Bon, il reste juste une question à laquelle on n'a pas répondu. À qui on s'adresse quand on prie? Quelle est l'identité du Créateur à laquelle on s'adresse quand on fait notre fila? Eh bien ça, c'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois. À bientôt.